bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Il est 7h en temps universel. Nanit Talani avec vous. Au menu, en Tanzanie, les domiciles de deux leaders d'opposition encerclés par la police avant une manifestation. Au Gabon, l'Assemblée constituante finalise l'examen du projet de constitution après plusieurs semaines de débats. Appel à la retenue de l'ONU face aux échanges de frappes entre le Hezbollah et Israël. Dans notre section magazine, nous analyserons la controverse sur l'aide d'urgence aux sinistrés des inondations au Cameroun, jugée dérisoire. La Banque mondiale investit 90 millions de dollars dans le corridor Djibouti-Addis Abeba. Ce sera dans l'économie et puis en sport. Le stade malien et ASEC Abidjan avancent en Coupe de la Confédération. Mais d'abord, le journal. En Tanzanie, la police a bloqué ce matin les accès au domicile de deux leaders du principal parti d'opposition, Chadema, qui a appelé à manifester malgré l'interdiction de la police contre les disparitions de ses membres, a annoncé la formation. Depuis hier soir et jusqu'à ce matin, la police a fermé toutes les routes menant au domicile du président du Chadema, Freeman Mbowe. Tous les usagers de la route sont arrêtés, fouillés et interrogés sur leur intention de manifester, a annoncé Chadema dans un message sur X. Des forces de sécurité ont également encerclé la maison du vice-président Tundu Lissou, ajoute le parti dans un autre message. Au Gabon, les députés et sénateurs de la transition réunis en assemblée constituante ont achevé hier l'examen du projet de constitution débuté le 12 septembre. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Jean-François Ndongou, président de l'assemblée constituante, ce projet de constitution veille à la séparation des pouvoirs, au renforcement des droits et des libertés individuelles. Selon une version du projet qui circule sur Internet et qui n'a pas été démentie par les autorités, la nouvelle loi fondamentale prévoit l'instauration d'un régime présidentiel sans premier ministre, un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. Selon la même source, le texte qui n'a pas encore été rendu public consacre aussi le mariage comme l'union entre deux personnes de sexe différent, rend le service militaire obligatoire et confirme le français comme langue officielle du Gabon. Le rapport contenant les recommandations sera remis le plus tôt possible à Brice Oligui Nguema. Le texte doit ensuite être adopté en Conseil des ministres, puis soumis au référendum d'ici la fin de l'année, selon le calendrier annoncé. Les élections sont prévues pour août 2025. Le calendrier de transition de 2 ans avait été présenté par le président de transition en novembre 2023.
En Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté hier contre le président Kais Saied, l'accusant d'aggraver le régime autoritaire et d'étouffer la concurrence politique à 2 semaines de l'élection présidentielle. Sous une forte présence policière, les manifestants ont défilé pour la 2e semaine consécutive. Ils ont scandé des slogans tels que « Le peuple veut la chute du régime » et « Dehors le dictateur Saied ».
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a mené ce matin des dizaines de frappes sur le sud et l'est du Liban après avoir lancé un avertissement à la population et promis des raids plus étendus contre le Hezbollah pro-iranien alors que la communauté internationale ne cesse d'appeler à la retenue. L'agence officielle libanaise ANI indique dans le même temps que les avions de guerre ennemis ont lancé plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure visant des zones du sud du Liban en même temps que des raids intenses dans la vallée de Beka, dans l'est du pays. L'ONU, les États-Unis et les Européens ont appelé hier à la retenue après les échanges de frappes entre le Hezbollah libanais et Israël. L'Égypte dit redouter une guerre totale, tout en dénonçant les mesures provocatrices d'Israël. Davantage avec John Lindon.
Au siège de l'ONU à New York, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badel Abdoulati, a déclaré qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur la possibilité d'une escalade dans la région qui conduise à une guerre totale. Il a mis en garde contre des effets négatifs de ce conflit à la frontière israélo-libanaise sur les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis sont des médiateurs dans le conflit entre Israël Israël et le Hamas qui ravage depuis près d'un an la bande de Gaza. Bader Abdulati a dénoncé ce qu'il qualifie de mesures provocatrices du gouvernement de Benjamin Netanyahou contre le groupe libanais chiite pro-iranien Hezbollah, allié du Hamas. Le premier ministre israélien a déclaré que l'armée a porté au Hezbollah une série de coups après d'intenses échanges de tirs transfrontaliers. Le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Kassem, a affirmé que la bataille contre Israël entrait dans une nouvelle phase. Le président Joe Biden s'est dit inquiet des tensions au Moyen-Orient et a assuré faire tout son possible pour éviter un élargissement du conflit. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé que le Liban devienne un autre Gaza.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé sa venue ce lundi aux États-Unis pour présenter à son homologue Joe Biden le détail de son plan de la victoire pour mettre fin à l'invasion russe. Il a assuré que cet automne serait décisif. Le point avec Jean-Roger Bion.
Nous entamons une visite aux États-Unis, a dit Volodymyr Zelensky dans un message vidéo depuis son avion. Il a précisé que sa première étape sera la Pennsylvanie, puis New York et Washington. Cet automne sera décisif pour la suite de la guerre, affirme le président ukrainien, ajoutant que son homologue américain sera le premier à voir dans le détail les propositions ukrainiennes. Il a déclaré samedi que la fin de la guerre avec la Russie, qui dure depuis plus de 2 ans et demi, dépendait de la détermination des alliés occidentaux de Kiev à fournir l'armement nécessaire et l'autorisation de l'utiliser. L'Ukraine a déjà reçu plus de 3 millions d'obus de 155 mm de la part des États-Unis. Le président Zelensky insiste auprès des Américains pour qu'ils l'autorisent à utiliser des systèmes de missiles à longue portée pour tirer à l'intérieur de la Russie. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à convaincre la Maison-Blanche d'assouplir ses restrictions. Le président Vladimir Poutine a averti que la Russie serait en guerre avec les États-Unis et ses alliés de l'OTAN s'ils autorisaient l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée.
Les États membres de l'ONU ont adopté hier un pacte pour construire un avenir meilleur pour l'humanité, éprouvé par les guerres, la misère et le réchauffement climatique. La Russie s'est opposée à l'adoption de ce pacte pour l'avenir. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Le pacte présente sur plus de 20 pages 56 actions dans des domaines tels que l'importance du multilatéralisme, le respect de la charte de l'ONU et le maintien de la paix, la réforme des institutions financières internationales, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, entre autres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à des réformes significatives des structures de gouvernance mondiale, surtout du Conseil de sécurité, ajoutant qu'il est injuste, inéquitable et insoutenable de confier la sécurité du monde à un petit nombre de pays. Sans empêcher l'adoption du pacte, la Russie, soutenue par le Bélarus, l'Iran, la Corée du Nord, le Nicaragua et la Syrie, s'est opposée au texte. Elle réclamait d'ajouter des éléments soulignant que l'ONU ne peut pas intervenir dans les affaires internes des États, demande rejetée par l'Assemblée de l'ONU. Le pacte et ses annexes sont non contraignants.
La directrice du programme de l'ONU pour l'environnement annonce un début de convergence dans les négociations du premier traité mondial contre le plastique. En 2022, 175 pays se sont engagés à finaliser ce traité d'ici fin 2024 avec la dernière session de négociation prévue du 25 novembre au 1er décembre en Corée du Sud. Le nouveau gouvernement français fait ses premiers pas ce lundi, 2 mois et demi après des élections législatives anticipées qui n'ont dégagé aucune majorité et retardé l'élaboration du budget 2025. Désigné par le président Emmanuel Macron, le premier ministre Michel Barnier a dévoilé ce week-end la composition de son gouvernement avec 39 membres très majoritairement issus de la droite et du mouvement libéral de M. Macron. La Corée du Sud annonce qu'elle prendra des mesures militaires décisives si les ballons remplis de déchets envoyés par la Corée du Sud représentent une menace sérieuse pour la sécurité ou franchissent une ligne rouge. Lee Sung-jun, membre de l'état-major interarmé sud-coréen, précise que cette limite serait atteinte si des personnes décédées à cause de ces ballons sont détaillées les mesures à prendre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Après ce tour d'horizon de l'actualité, place à la Minute Éco, signée Nathalie Barge.
Le Botswana a octroyé son premier permis d'exploitation de manganèse à Guiani Metals, utilisé pour les batteries de véhicules électriques. La licence est valable 15 ans, avec une possibilité de plusieurs renouvellements de 25 ans pour le gisement K-Hill, qui peut livrer 3,6 millions de tonnes de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté sur 57 ans. La Banque mondiale a approuvé 90 millions de dollars pour un projet économique régional à Djibouti. Il s'agit principalement de l'amélioration de 3 tronçons du corridor Sud-Djibouti à Addis Abeba afin de faciliter le transit des marchandises. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative régionale lancée en 2019 pour renforcer les liens économiques entre Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Vodacom South Africa a annoncé le lancement d'un téléphone de 14 dollars basé sur le cloud pour réduire le coût d'accès aux smartphones et accélérer la transition vers les réseaux 4G en Afrique du Sud. Avec le Mobicel Cloud Phone, l'exécution des applications et le stockage des fichiers se font à distance sur des serveurs cloud via Internet. Le nouveau téléphone est notamment équipé des applications YouTube, TikTok et Facebook.
Qualification historique en Coupe africaine. Dioliba et Sagrada Esperança brillent. Le Stade malien et ASEC Abidjan avancent en Coupe de la Confédération. Déception pour les clubs de la RDC. Voici notre segment sportif présenté par Élisée Oupatin. Bonjour Élisée.
Bonjour Danita et bonjour à tous.
Le football avec les coupes africaines des clubs, on connaît les qualifiés pour la phase de poule.
Oui, et en Ligue des Champions, qualification historique des Maliens de Djoliba, vainqueur 1-0 à Lomé des Togolais de l'ASCO de Carrara. Une première aussi pour les Angolais de Sagrada Esperanza qui ont sorti les Nigériens de Enugu Rangers, de même pour le Stade d'Abidjan malgré sa défaite de 1 face aux Guinéens de Milo FC. En revanche, ça cale pour le second club ivoirien, le FC San Pedro, battu 1-0 par les Soudanais d'Al Hilal.
Et pour les autres qualifiés, les favoris sont au rendez-vous.
A commencer par le tenant du titre, Al Ahly du Caire, ainsi que son compatriote Pyramide FC. Les deux clubs sud-africains aussi, avec la qualification du Mamelodi Sundowns et de Orlando Pirates, tout comme les deux représentants de la RDC, le TP Mazembe et Manuma Union, qui a écarté les Angolais du Petro de Luanda. Ça passe également pour les Marocains du Raja de Casablanca, ainsi que les militaires d'Asfa de Rabat. Pareil pour les Algériens de Mouloudia et du CR Belouizdad, tombeur au tir au but des Burkinabés de l'AS Douane. Et puis, finaliste de la saison passée, l'Espérance de Tunis s'est facilement qualifiée suite à son succès 8-0 aux dépens des Somaliens de Dégida.
En Coupe de la Confédération Élysée, le Zamalek du Caire défendra son titre.
Les Chevaliers Blancs du Caire sont en phase de poule après avoir battu 2 fois les Kenyans de Police FC. Double victoire aussi, 2-0 et 5-0 de la Renaissance du Berkane opposé aux Béninois du Dadjer FC d'Aplahoué. Qualification également des Algériens du CS Constantine, des Tunisiens du club sportif Sfaxien, des Tanzaniens de Simba et du Stade Malien. Le club de Bamako n'a pas tremblé pour venir à bout des Libériens de Princeville. L'entraîneur Mabutu Kane se réjouit de cette première qualification.
J'avais un match, à un moment donné, c'est le cœur, c'est l'agressivité, la rage de vaincre, la rage de gagner pour se qualifier. C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on a marqué et on n'a pas pris bis. J'ai dit, allons-y, jouer dans leur camp. On les met la pression, ne jouez pas dans notre camp. C'est ce qui a fait qu'on est resté dans leur camp jusqu'à la fin du match. Le football, c'est comme ça. J'ai dit bravo aux joueurs.
Mamutu Kane, Timourlé, entraîneur du Stade malien au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan seront aussi en phase de groupe.
Les Mimos ont renversé les Togolais de la SCK qui les avaient battus à l'aller. Les Nigériens d'Enimba y seront aussi après leur succès contre les Burkinabés de l'Étoile Filante. Pareil pour le Jarab du Dakar, facile vainqueur 3-0 du Racing Club d'Abidjan. Déception par contre pour les 2 clubs de la RDC tous éliminés. L'AS des clubs de Kinshasa par les Sud-Africains de Stellenbosch et le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi par les Angolais de Bravos Marti.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Danit Talani de retour avec vous. Restez à l'écoute pour notre segment magazine. Au Gabon, Ali Bongo renonce à la vie politique. Un engagement sur l'honneur qui surprend et suscite des interrogations au sein de la population. Dans sa démarche, le président déchu appelle à la réconciliation et la clémence pour sa famille en détention depuis un an. Voici les réactions recueillies par notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
À peine lancé, dans une lettre ouverte adressée au peuple gabonais, l'appel à la réconciliation d'Ali Bongo Ondimba et sa demande de clémence pour sa famille sont déjà rejetés par une partie de l'opinion publique.
On attendait ça depuis 2000, depuis très longtemps. Est-ce qu'il a fait ? Non, il s'est empiré. Et là même, si le ceux qui n'a pas fait le coup d'État, il aurait encore tué les Gabonais. C'est trop facile maintenant de dire, pardonnez-moi. Non, il faut qu'il paye. Hein? Même Dieu pardonne. Mais les conséquences restent. On peut lui pardonner, non? Mais il doit payer.
Étudiant Eric Eyo n'est pas de cet avis.
Est-ce que garder sa famille emprisonnée va résoudre les problèmes? Peut-être en les libérant, peut-être ils vont apporter leur part à l'édifice de ce qu'on veut construire maintenant. Ça peut prendre mon avis.
Wilfried Borbeau est favorable à la réconciliation nationale. Mais le journaliste souhaite que la demande de clémence d'Ali Bongo Ondimba pour sa famille emprisonnée soit examinée par la justice.
Parce que la justice fait son travail, mais je crois qu'on gagnerait à mettre un peu de l'eau dans le vin pour essayer d'alléger plus ou moins les conditions dans lesquelles se trouve aujourd'hui sa famille. Mais l'appel, c'est un appel de cœur, et je crois qu'en citoyen conscient, ça ne peut que nous toucher.
Pour Bertie Yassengon, cadre de l'éducation nationale, le pardon s'impose à l'heure de la reconstruction du nouveau Gabon.
Le Seigneur nous pardonne tout ce qu'on fait. Pourquoi ne pas lui pardonner à quelqu'un qui reconnaît sa faute? On doit pardonner ce monsieur-là.
La démarche du président déchu aura visiblement du mal à prospérer. David Berakouma, ancien militant de l'ex-parti au pouvoir.
Il est hors de question que la réconciliation nationale soit l'appel d'Ali Bongo Ondimba. Si c'est l'appel de Brice Côté Oligui-Nguema, eh bien, nous répondrons positivement parce que nous voyons bien les avancées de Brice Côté Oligui-Nguema sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Il y a des véritables réformes. Le pays est en chantier et on voit bien un véritable patriote qui a envie de reconstruire justement cette stature-là, ce Gabon de déliquescence, ce Gabon qui a été détruit par la famille Bongo PDG.
Les avocats d'Ali Bongo Ondimba ont annoncé à la presse leur intention de saisir les juridictions internationales pour obtenir la libération de Sylvia, son épouse et son fils Nourdine. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ces derniers jours ont été éprouvants pour le Bénin sur le plan sécuritaire. Les médias locaux ont annoncé plusieurs attaques contre les forces de sécurité dans le nord du pays. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adondé.
Face à la montée du djihadisme au Sahel, les experts en sécurité misent sur la solidarité sous-régionale. Mais les pays du Sahel les plus touchés par ces attaques ne parlent pas le même langage. Arnaud Timpon, expert en relations internationales.
Quand nous allons nous unir, ben écoutez, c'est clair que même les terroristes auront peur parce que dorénavant, eh bien, c'est plusieurs nations, j'allais dire, qui se réunissent maintenant contre eux. Mais pendant que, même à notre sein, nous qui voulons combattre le fléau à notre sein, nous nous entendons. Et bien, et il y a des difficultés entre nous. C'est clair que l'ennemi peut se trouver son aise dedans. Et d'où la persistance, bien évidemment, du terrorisme.
Pourtant, en novembre 2022, au Ghana, lors de la conférence internationale autour de l'initiative d'Accra, sept chefs d'État africains ont décidé de mutualiser les stratégies pour contrer la propagation des violences djihadistes dans les pays du Sahel et en progression vers les côtes du golfe de Guinée. Un engagement qui s'est noyé dans les conflits. Mali. Pour Fiacre Daga, expert sur les questions de sécurité, les chefs d'État feraient mieux de restructurer la CEDEAO.
Beaucoup de pays, surtout les pays qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO, sont les pays qui ont beaucoup plus du mal avec la lutte contre le terrorisme. Mais en ce sens que ce n'est pas forcément une raison, mais ils auraient pu quand même bénéficier du soutien de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans cette lutte-là. Maintenant, dans un autre sens, les pays qui se sont retirés et les autres pays qui sont tout autour doivent quand même s'entendre pour poser des actes forts, engager des forces d'action militaire conjointes pour lutter contre le terrorisme.
À force de vivre dans la peur en raison de la fréquence des attaques, les populations ont fini par perdre confiance en leurs autorités, ce qui rend difficile la traque des terroristes, pense pour sa part Tranquillin Kadoté, commerçant transfrontalier.
Ici, la présence des forces de défense et sécurité de leur pays n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent. Il faut faire comment? Ils n'ont pas le choix que de rester là. Il y a des gens même qui sont prêts en ce moment-là à aller dans le cas de à rejoindre les terroristes pour pouvoir revenir terroriser encore un fait de mal à son propre tribu ou bien à son propre peuple.
Aujourd'hui, le Niger et le Bénin tentent de revenir à de meilleures relations, mais ne se font pas encore suffisamment confiance pour partager des informations qui relèvent de la sécurité de leur territoire. Il en est de même pour le Burkina Faso, l'autre voisin immédiat du Bénin. Pendant ce temps, les groupes armés progressent et sèment la terreur au sein des populations. De Cotonou, Jeanette Fladonné pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM. Au Cameroun, l'aide d'urgence humanitaire du président Paul Biya à plus de 200 000 sinistrés des inondations dans la région de l'extrême nord fait polémique. Il s'agit de 350 millions de francs CFA alloués à 950 familles victimes des inondations. Environ 3 700 bénéficiaires ont reçu cette aide ce week-end à Yagoua, dans l'extrême nord du pays. Du Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
La polémique fait suite à l'annonce par le ministre de l'administration territoriale Paula Tanganji du montant de l'aide présidentielle. Sur les réseaux sociaux, certains Camerounais font de l'ironie. Chaque sinistré devrait recevoir 1 750 francs CFA sur les 350 millions offerts. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, a tenté de lever tout équivoque.
Il y a des gens qui souffrent du fait des inondations. Ils n'ont plus de maison, de l'aide matérielle ou financière. Et donc les 350 millions de francs concernent d'abord les gens qui sont directement impactés par les inondations. Mais parallèlement, on est en train de réparer certains dits qui ont lâché. Donc quand vous prenez tout ça, les sites de recasement, les dits qu'on est en train de réparer, tout ce que nous sommes en train de faire pour cette gestion. Donc je pense que ce que le chef de l'État a débloqué, c'est dans les 1,6 milliard d'euros.
Lors des premières distributions, 450 familles du camp de recasement de Ourodaba, dans la commune de Yagoua, ont reçu cette aide. Mais sous anonymat, deux femmes sinistrées évoquent leur détresse.
On est en train de vivre dur ici. On n'a pas à manger. Les enfants sont en train de souffrir pour aller à l'école. Il n'y a pas moyen de déplacement. Bon, pour trouver à manger, même c'est on se défend au marché. Mais c'est pour aller au marché, il n'y a même pas moyen. Même trouver quelque chose, même là, c'est au marché qu'on cherche. Il n'y a rien.
Bon, c'est un peu. Après avoir trouvé les tentes, on nous a déjà installé. Les parents ne peuvent pas se déplacer pour aller au marché pour peut-être chercher de quoi manger, non? Parce que dès que tu sors, on vient remplacer la personne. Et les enfants aussi, il y a les moustiques, la fraîche.
Dans la localité de Pousse, les eaux ont ouvert des brèches dans la digue du lac de Maga, construite entre 2019 et 2020 dans le cadre du projet d'urgence de lutte contre les inondations. Le projet PUPSI a été financé à hauteur de 108 millions de dollars. Un jeune de la localité de Pousse ne cache pas sa colère.
Non. Le projet PUPSI a failli à ses missions, monsieur. Il a fait un travail très nul. sur cette berge du Logon. C'est un travail très nul avec l'entreprise Geyser qu'ils ont sollicité. Donc nous demandons à l'État de reconstruire de manière définitive cette digue. Il faut élever cette digue à environ 1,80 m ou 2 mètres d'altitude. Là, ça pourra soulager les paysans parce que les paysans cherchent même déjà à évacuer leur famille parce que c'est inquiétant.
Sur les réseaux sociaux, les récentes inondations ont pris une tournure politique. Les électeurs de cette région, bastion du parti au pouvoir, promettent un vote sanction aux prochaines élections. Selon la plateforme humanitaire dénommée Sahel Solidarité, je cite, plus de 300 000 personnes n'ont reçu aucune aide après les inondations. Fin des citations. Le gouvernement a promis 500 millions de francs CFA à chaque commune touchée par ces inondations. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Selon les Nations Unies, en Tanzanie, une fille sur quatre, âgée de 15 à 19 ans, est enceinte ou a accouché. Les mesures qui obligeaient les mères adolescentes à abandonner l'école ont été levées en 2021. Malgré ces règles, beaucoup d'entre elles ne peuvent toujours pas en même temps être mères et recevoir une éducation. Reportage de Djoudi Marie, le récit est de Dini Niwa.
Lorsque Nima Kissima Kissili est tombée enceinte à l'âge de 15 ans, elle a dû faire face à la désapprobation de ses parents, de ses frères et sœurs et de la communauté. Malgré ses difficultés, elle fréquente une école privée qui, en partenariat avec le gouvernement tanzanien, aide les mères adolescentes à poursuivre leurs études. Kissima Kissili explique qu'elle n'a personne pour s'occuper de sa fille d'un an pendant qu'elle suit les cours et que l'enfant vit donc avec elle dans les locaux de l'école.
Il arrive que je suis en classe et que je dois sortir et vérifier si mon enfant mange ou non, s'il est dans un environnement sûr ou non. Pendant que je suis dehors, mes amis sont en classe en train d'étudier.
En Tanzanie, certaines institutions non gouvernementales et religieuses proposent des services de garde d'enfants. Mais cela ne suffit souvent pas à répondre à tous les besoins des jeunes mères. C'est pourquoi la garde des enfants est souvent laissée aux parents et aux tuteurs des adolescentes, explique Esther Manyanda, directrice de la GLAD Pre and Primary School à Dodoma.
Il existe de nombreuses garderies payantes, mais nous aimerions que le gouvernement rencontre les propriétaires de ces garderies dans chaque région ou pour l'ensemble de la Tanzanie et leur demande de prendre les enfants et de les élever dans leur centre.
En 2021, le gouvernement tanzanien a levé une interdiction qui empêchait les jeunes mères et les jeunes filles enceintes d'aller à l'école. En conséquence, davantage de mères adolescentes et d'étudiantes enceintes sont retournées à l'école, dont plus de 1600 rien qu'en 2023, selon le ministère de l'Éducation. Le gouvernement essaie de faire plus encore en collaborant avec des organisations privées pour alléger le fardeau des jeunes mères qui n'ont pas de garderie. Il s'agit notamment de construire des dortoirs, d'offrir des cours d'éducation sexuelle et de la nourriture gratuite. Dans un discours prononcé devant le Parlement en mai dernier, le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a déclaré que le gouvernement revoyait sa politique en matière d'éducation et révisait les règlements afin de mieux expliquer comment les étudiantes dont les études sont interrompues par une grossesse peuvent retourner à l'école.
Nous sommes conscients de l'abstaisme scolaire et notamment du problème de la grossesse chez nos filles. La construction de dortoirs nous aidera à les protéger. Nous poursuivons donc cette stratégie.
Mais la stigmatisation demeure. La petite fille de Mbwakitu, Eneza, qui n'a donné que son prénom pour des raisons de confidentialité, est tombée enceinte à 15 ans en 2022. Bien qu'elle ait souhaité retourner à l'école après l'accouchement, cela n'a pas été possible. Aujourd'hui, malgré la levée de l'interdiction scolaire pour les filles enceintes, Kitu a dû intervenir car lui et Eneza, aujourd'hui âgés de 17 ans, étaient confrontés à des attitudes négatives.
Je ne pouvais pas l'emmener dans cette école. Si vous regardez les écoles que nous avons, la stigmatisation est un gros problème. Les gens pensent qu'elle ne pourrait pas continuer ses études, même si elle dit qu'elle est prête à y retourner.
Et Eneza n'est pas la seule. De nombreuses mères adolescentes qui souhaitent retourner à l'école continuent de se heurter à des obstacles tels que la pauvreté, l'isolement social et le rejet, ainsi que le manque de services de garde d'enfants. Nima Kissima Kissili espère qu'un jour la grossesse n'empêchera plus les jeunes mères de poursuivre leurs études.
ici que nous mettons un terme à cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez à l'écoute pour plus d'informations et d'analyses sur VOA Afrique. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente journée. Je suis Nanit Salami à la réalisation, Georges Léonard Sagnot à la technique, Kelvin Fowler. Pour rester informé en temps réel, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et suivez-nous sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Au revoir et à bientôt.